Sa tumeur serait certes brûlée, mais elle aurait carrément un trou dans le poumon. Ça ne serait pas vraiment une guérison, mais une destruction. Lorsque nous nous offrons résolument à l'action de l'esprit, il proportionne son action curative, guérissante et libératrice selon le rythme de notre liberté, de notre consentement. Si Dieu guérissait tout en nous d'un seul coup, nous serions comme détruits intérieurement. Dieu avance donc au rythme de l'homme, par paliers. Si nous avons déjà perçu des signes de guérison dans notre vie, d'une certaine dilatation de notre vie dans l'esprit, évitons deux écueils. Un optimisme trop présomptueux. Maintenant je ressens la paix et la joie, Dieu a tout guéri, maintenant ça va mieux, je suis libéré. Si nous connaissions en vérité la profondeur de nos racines blessées, nous en serions étonnés. Pour être vraiment guéri en profondeur, il faut être passé au feu de l'amour. L'amour, ça réchauffe, mais ça brûle aussi. Ne tombons pas non plus dans l'écueil opposé, qu'est le découragement. Nous nous regardons trop en train de grandir dans l'esprit, et cela gêne le travail de l'esprit. Le père Marie-Eugène dit que si Thérèse de Lisieux a fait une course de géant en si peu de temps à travers les différentes phases de l'union à Dieu, c'est parce qu'elle est passée à travers les purifications sans les regarder, sans se regarder. Vivre à partir du centre, c'est cesser de se regarder le nombril pour contempler sans cesse Dieu en tout ce qu'on vit. Dieu guérit de manière discontinue. Dieu guérit par étapes, mais aussi de manière discontinue. Saint Thomas d'Aquin se pose la question suivante à propos de la croissance de la charité en nous. Est-ce que la charité de Dieu grandit à chaque acte de charité de l'homme? Il répond « Je ne le pense pas. Je pense qu'en fait, un certain nombre d'actes de charité disposent l'âme à une croissance. Mais il faut un certain nombre d'actes et, au moment jugé opportun par Dieu, il donnera l'accroissement désiré. Le docteur Commin utilise l'image des saisons. Pendant l'hiver, la sève monte, s'accumule et puis brusquement le printemps fait tout éclore. Une seule hirondelle, dit le philosophe, ne fait pas le printemps, un seul jour non plus. Ainsi, à coup sûr, ce n'est pas assez d'un jour ni d'un peu de temps pour faire la béatitude ni le bonheur. Mais la béatitude, dit-il encore, est l'activité commandée par l'habitus de la parfaite vertu. C'est avoué qu'un seul acte ne fait pas l'habitus de la vertu. Dans notre vie spirituelle, il en est ainsi. Nous posons souvent des actes de confiance dans l'épreuve, des actes d'abandon en Dieu, et on a l'impression que sur le moment, il ne se passe rien au niveau des effets guérissants et libérateurs, un peu comme si c'était l'hiver. Et un jour, on pose un grand acte de confiance et brusquement c'est le printemps. On voit bourgeonner les fruits de paix, de plus grande liberté dans l'esprit. C'est la multiplication des petits actes de vertu d'humilité, de charité et de confiance qui prépare l'action libératrice de l'esprit en nous. Dieu est un chirurgien qui connaît très bien son métier. C'est lui qui a créé l'homme, il doit donc bien savoir comment s'y prendre pour guérir son cœur malade. Jésus n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Évangile de Jean, chapitre 2, verset 25. Laissons donc notre Dieu médecin opérer son travail en nous comme il l'entend, quand il l'entend, et cessons de lui dire ce qu'il a à faire pour nous guérir. Thérèse de Lisieux illustre bien ce travail caché, mais effectif de Dieu, à travers nos petits actes de vertu, et qui produit son effet le moment venu. La fameuse nuit de 1886, elle reçut une grâce très puissante de guérison et de libération dans l'esprit. Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit. En arrivant au Buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé puisque j'étais la plus petite de la famille. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montai alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier, et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers, et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière, commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. Et sa conclusion rejoint bien les analyses de saint Thomas d'Aquin à propos du caractère palliatif de l'action de l'esprit en nous. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Comment l'Esprit-Saint nous visite-t-il? De manière sauvage et domestiquée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de grâce d'effusion du Saint-Esprit, notamment dans le renouveau charismatique. Ce n'est pas une invention fumeuse de quelques illuminés. C'est tout simplement un autre mot pour dire ce que saint Thomas d'Aquin appelle une mission divine. Cette grâce d'effusion de l'Esprit ou mission divine peut être définie comme une venue de Dieu dans l'âme. Et cette présence plus forte de la grâce de Dieu en l'âme est accompagnée automatiquement d'une plus grande unification intérieure, d'une plus grande liberté intérieure. On peut dire qu'il y a deux sortes d'effusion de l'Esprit, de mission divine dans une âme. Certaines sont sauvages, d'autres, pourrait-on dire, sont domestiquées. Les venues de Dieu dites sauvages. Elles sont sauvages car elles ne sont pas préparées directement par l'homme. Dieu est libre de donner ses dons comme il l'entend et quand il l'entend. Ces venues dites sauvages correspondent à ce que saint Ignace de Loyola appelle dans les exercices spirituels numéro 330 les consolations sans cause précédente. Ces grâces dites sauvages ne sont pas un viol de l'âme par la grâce de Dieu. Le consentement de l'homme est requis, mais l'accent est résolument mis sur l'initiative divine. Il ne serait pas étonnant que Dieu multiplie aujourd'hui ce type de grâces sauvages, de grâces d'union, des grâces de miséricorde données prématurément et à profusion. Dans les siècles précédents, c'est au terme d'un parcours de purification et de sanctification que Dieu réservait des grâces d'union. Mais aujourd'hui, dans un monde guetté par l'apostasie tranquille, il est devenu très difficile de croire, car Dieu est le grand refoulé de ce monde. Dans sa miséricorde, Dieu attire les âmes pour leur permettre d'accéder à la foi. Des grâces pas croyables pour que Dieu devienne croyable. D'autre part, les personnes sont aujourd'hui tellement abîmées dans ce monde cassé que Dieu semble inverser sa manière habituelle d'agir en donnant des surdoses de grâce, comme un médecin urgentiste à des êtres malades. Ces grâces fortes des débuts serviront de boussole montrant le but final de la vie chrétienne. Ces personnes visitées par ces grâces sauvages et sensibles ne pourront pas faire l'économie de la nécessaire purification de l'émotionnel et de la foi. Il y a là un enjeu important pour la pastorale actuelle de l'Église. Il est certain que le discernement des motions de l'esprit n'est pas facile dans un monde sous l'emprise de l'émotion. Mais si l'Église ne veut pas prendre en compte ce type d'expérience de grâce dite sauvage, sous prétexte que l'émotionnel c'est sale, elle privera ses âmes affamées de la vraie nourriture d'effort. Elle reniera son cœur de mère et d'éducatrice. Les venues de Dieu dites domestiquées. Ce sont des grâces de l'esprit, des venues de Dieu dans l'âme qui sont le fruit d'un travail d'alliance entre Dieu et l'homme. Dans ce deuxième type de grâce, la collaboration de l'homme par la pratique des vertus est plus directement active. La guérison intérieure de Thérèse de Lisieux est un mélange.